7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Liselotte Dutreuil.
Et merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre ce matin. Dans 10 minutes, on retrouve l'abbé Mathieu Raffray et Julien Langelas pour parler d'Halloween, de la Toussaint. Voilà, et tout de suite, eh bien, normalement, c'était la chronique de Jean-Luc Gana. Et ce matin, hop, c'est une feinte. Finalement, nous retrouvons Richard de Sèze qui vous parle d'exposition de culture. Ça faisait longtemps.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Richard.
Bonjour Lisette.
Merci d'être avec nous ce matin et à distance malgré vos occupations. Oui. Pour nous parler de culture. La culture, ça reste toujours primordial, quoi qu'il arrive.
Absolument, et merci de le souligner. Il y a en ce moment à Paris trois expositions qui ont, à des titres divers, d'abord un intérêt en soi, et elles sont très bonnes. Il s'agit du Moyen-Âge du 19e siècle au musée de Cluny, donc le musée du Moyen-Âge, Faux et faussaires du Moyen-Âge à nos jours, aux archives, qui d'ailleurs est une exposition gratuite, et enfin 1925-2025, 100 ans d'art décoratif au musée des arts décoratifs. Alors pourquoi est-ce que je fais un lien entre ces trois expositions? C'est qu'il y a à chaque fois une réception du passé et une manière de réinventer ce passé qui est ou laudative ou frauduleuse. On va commencer par l'exposition du musée de Cluny, qui est vraiment très intéressante. Donc le 19e siècle, c'est cette période où on se retrouve avec une France qui a été absolument ravagée par la Révolution française, où les iconoclastes ont fait pire que ce qui s'est passé avec la période des iconoclastes protestants. Alors, sachant évidemment que l'Église catholique elle-même avait mis la main à la pâte, si j'ose dire, au cours des siècles précédents, en bouleversant tel ou tel édifice religieux. On se souvient que Notre-Dame n'avait pas été épargné sous Louis XIV, mais là, quand même, l'ampleur des destructions, la disparition des trésors, le pillage, en fait, la destruction des statues, le bûchage systématique de tout ce qui était décoré, orné, figuré, avait été absolument ahurissant. Et donc, la France se réveille d'une certaine manière avec la gueule de bois et elle se dit que peut-être que le progrès promis par les Lumières et prétendument accompli par la Révolution était un peu un leurre, et elle décide de partir à la recherche de son propre passé. Et c'est un vaste mouvement de redécouverte du Moyen-Âge. On redécouvre en fait une France hérissée de liberté, comme dira un grand penseur plus tard. On redécouvre une France colorée, on redécouvre une France prospère, on invente des concepts comme la Renaissance carolingienne. Enfin bref, on se rend compte que ces âges obscurs, cette parenthèse de 1000 ans était en fait extrêmement riche d'art, d'intelligence, de culture, d'échange d'ailleurs avec les autres cultures. Et donc il y a une espèce de médiévalomanie qui s'empare de tout le monde, et évidemment y compris des collectionneurs. Les grands collectionneurs commencent à rassembler chez les antiquaires de vastes collections, dont certaines vont finir dans les musées français. Et l'exposition du musée de Cluny nous fait rentrer en fait dans ce mouvement de redécouverte de notre propre culture, avec des objets emblématiques, tel calice, tel retable, tel ostensoire, tel reliquaire, avec plusieurs manières en fait de recevoir cet héritage. D'une part, le fait de le documenter, de le restaurer, d'avoir des publications savantes. C'est l'époque évidemment où Viollet-le-Duc sort ses dictionnaires. Et très intelligemment, on nous présente côte à côte à la fois l'objet original, tel qu'il a pu être inventé, au sens où on découvre, on invente un trésor, c'est-à-dire on découvre un trésor par tel ou tel chercheur, la manière dont il est ensuite étudié scientifiquement, la manière dont il est reproduit. La maison Christophe, par exemple, donc l'orfèvre bien connu, procède par galvanoplastie, c'est-à-dire des copies avec un procédé terriblement innovant pour l'époque, une espèce de photographie en 3D, si j'ose dire, à des copies de ces objets en métal pour la plupart, et on restitue en fait ce modèle, on le diffuse. Il y a comme ça des reliquaires, des bustes, du matériel liturgique, du mobilier liturgique, pardon, qui est diffusé. En même temps, on s'intéresse évidemment aux peintures, on s'intéresse aux tissus. Et en parcourant l'exposition, qui est très bien organisée, comme les trois quarts des expositions de Cluny, on découvre en fait là, le regard que pose le 19e sur ce Moyen-Âge, et qui est un regard émerveillé. Voilà. Les formes sont à la fois barbares et raffinées, les couleurs, bah, ce sont celles des enluminures et des émaux, elles sont éclatantes. Et donc c'est un siècle totalement différent qui surgit d'une mémoire qui avait été obscurcie par la Révolution française et l'idéologie. Et donc peu à peu, les gens se prennent de passion, les collectionneurs collectionnent, on produit des copies. Et là, notamment, l'intérêt évidemment de cette exposition, c'est de nous montrer que ce Moyen-Âge du 19e à la fois restaure, copie, invente et même tend peu à peu vers le faux. Il y a plusieurs vierges, notamment des vierges ouvrantes, taillées dans des défenses en ivoire d'éléphant, qui sont fascinantes parce que donc ce sont des statues qui s'ouvrent en fait. Et donc la face avant de la statue est constituée de deux volants. Et donc en ouvrant la Vierge qui tient généralement l'enfant Jésus, on découvre ben, comme un retable en trois panneaux toute l'histoire du Christ. Est-ce que cette Vierge, il en existe plusieurs exemplaires dans différents musées, est une Vierge authentique? Certains musées disent que oui, certains musées disent que non. Certaines de ces statues qui sont rentrées dans les collections publiques au 19e en ont été sorties au 20e et pour certaines d'entre elles, ils reviennent au 21e, c'est-à-dire ils reviennent en tant qu'authentique et non pas en tant que faux. Une dernière partie de l'exposition est consacrée aux faux et aux faussaires parce que, évidemment, ce goût des antiquités médiévales lance les personnes peu scrupuleuses sur la piste des faux qui sont très habiles, faits par des artisans de talent et qui copient en buis une statue en argent ou inversement et réinventent une fausse pierre d'autel portative à partir des modèles qui existent, inventent des châsses absolument admirables, des monstrances, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des petites châsses qui sont comme un tube de cristal transparent monté sur pied, des monstrances qui sont si bien faites, si intelligemment médiévales, pour le dire ainsi, que Viollet-le-Duc s'y trompe lui-même. Dernière modalité, c'est évidemment la grande orfèvrerie religieuse du 19e et jusqu'au début 20e, jusque dans les années 20-30. Il y a quelques exemples admirables de mobilier liturgique art déco qui, en fait, empruntent totalement, même copient, non pas servilement, mais avec intelligence, les modèles médiévaux qui sont fascinants. Et on est comme ça amené peu à peu à comprendre en fait, ce mouvement qui a jeté les gens vers le Moyen-Âge. Alors, j'ai parlé d'Art déco. Justement, l'exposition 1925-2025 au Musée des Arts décoratifs nous parle là aussi d'art décoratif. En faisant le parti pris moins des objets du quotidien, comme l'exposition de 2022 de la Cité de l'architecture, que des objets d'exception. Il y a énormément d'objets de Ruhlmann, ébéniste absolument remarquable. Et surtout, l'exposition commence par le Nouvel Orient Express, qui a été réinventé par un designer français en 2020-2025. À partir de plusieurs voitures de l'Orient Express qui ont été restaurées, totalement réaménagées, repensées. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'admirable. On a là des ouvriers français, des ateliers français, un designer français qui réussissent à se glisser dans l'esprit de luxe de l'Orient Express d'il y a 100 ans. Il y a une cabine de l'Étoile du Nord qui devait circuler vers 1920-1925, avec la même intelligence des tissus, du bois, de la marqueterie. Il y a là un savoir-faire français absolument incroyable qui fait penser évidemment à la manière dont on a rebâti Notre-Dame, toutes choses égales par ailleurs. Et d'ailleurs, sans doute une leçon politique, quand les Français se penchent sur leur passé et décident de faire confiance à leurs artisans, en étant intelligemment de leur époque sans renier le passé, eh bien, ils produisent des merveilles. Je pense que les politiques pourraient se pencher sur la question, mais ça nous éloigne un peu du sujet. Cette exposition est absolument remarquable, très riche. Le musée des arts décoratifs a été généreux. Donc il y a un long parcours, cette nef donc consacrée à l'Orient Express, l'ancien et le nouveau, ensuite nous amène dans les étages où on est submergé de period room, donc autrement dit de reconstitution de salon, d'un appartement parisien tout droit sorti des arts décoratifs et industriels et de l'exposition de 1925. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Pour qui aime l'art déco? Alors, pour qui n'aime pas l'art déco, qui trouve ça trop plat, trop droit, ça peut évidemment rebuter. Je conseille malgré tout aux amateurs d'y aller. Voilà, après avoir vu Cluny, jetez-vous sur quelque chose qui a existé plusieurs siècles après le Moyen Âge et rendez-vous compte en fait de la permanence, si j'ose dire, d'une part des techniques et d'autre part de ce goût de la décoration. Puisqu'on parlait de faux avec Cluny, c'est le moment d'aborder la dernière exposition, qui est tout à fait intéressante, elle aussi, très documentaire, même s'il y a des objets admirables, puisque c'est cette exposition aux archives Faux et Faussaires du Moyen Âge à nos jours, avec la manière dont on invente de faux objets, de la fausse monnaie, évidemment. Y a de la fausse quincaille médiévale jusqu'à de faux billets Napoléon, qui permettent de regretter, évidemment, ces billets admirables qui ornaient nos enfances. Enfin, je parle plus de la mienne que de la vôtre, Liselotte. Là, avec donc des ateliers de faux monnayeurs quasiment reconstitués devant nous, de faux lingots suspendus dans le vide et de fausses tiares médiévales qui trompé tous les experts au moment où elles ont été montrées. Là aussi, alors cette exposition aux archives qui est gratuite, comme toutes les expositions qui ont lieu rue de Soubise, est vraiment très intéressante. Elle nous fait rentrer à la fois dans la manière dont le faux est conçu, la manière dont il est traqué, comment est-ce que le faux est perçu aussi, car voilà, qu'il s'agisse de l'exposition de Cluny ou de celle des archives, il y a bien sûr ce rapport à la vérité et qui parfois est un peu lâche et au bout du compte, les des objets, sont à une monstrance, ça n'a pas de griffu.
On a un petit problème de connexion avec la fin de votre chronique, Richard. Je ne sais pas si vous nous
Cluny qui
entendez. On vous entend de façon extrêmement hachée, malheureusement. Arnaud me dit qu'il n'y a plus de son. On va passer à la suite. Merci beaucoup, Richard, en tout cas, pour ces chroniques culturelles qui, encore une fois, nous rappellent qu'il y a des... Ah, je crois que Richard est revenu parmi nous. Vous nous entendez, Richard?
vous entends très bien, j'ai changé de pièce.
Bon, bah
Je ne
voilà.
savais pas que je ne passais pas. J'aurais été
Mais vous passiez très bien
bon.
tout au long de la chronique, et là, la dernière minute a commencé à être hachurée. J'étais en train de vous remercier de rappeler aux auditeurs qu'il existe encore de belles choses en France, et que donc, rien que pour ça, c'est une bonne façon de ne pas désespérer et de sortir un peu la tête de l'actualité quand on sent que ça fait un peu trop. Se tourner vers la culture, c'est toujours une bonne solution.
Voilà, culture et culture gratuite. N'hésitez pas.
Merci beaucoup, Richard, pour cette chronique, et je vous dis à demain.
Merci Liselotte. À demain.
Ligne droite.
Et nous poursuivons avec un sujet sur Halloween. Vous me passerez le mot anglais, chers auditeurs, parce que c'est devenu un nom propre. Et puis surtout, comme le dit si bien Richard ou bien Xavier Van Lierde, quand on veut parler de quelque chose de négatif, eh bien pourquoi pas garder les anglicismes. Donc Halloween qui dévore la Toussaint, qui défend encore nos morts. On va parler donc de ces deux fêtes qui aujourd'hui semblent s'opposer un petit peu dans notre société moderne. On reçoit pour cela l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien?
Tout à fait. Bonjour.
Et nous sommes également avec Julien Langelas, éducateur vice-président d'Academia Christiana. Bonjour Julien Langelas.
Bonjour Liselotte, bonjour Monsieur l'abbé.
Alors Monsieur l'abbé, d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté, vous n'êtes pas seulement abbé, vous êtes aussi professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, très présent d'ailleurs, auteur de Le plus grand des combats aux éditions Eteri. Voilà, donc merci d'être avec nous tous les deux ce matin. On va parler d'Halloween et il y a certains auditeurs qui commentaient déjà en direct en disant qu'ils attendaient ce sujet, donc c'est parfait. Voilà, ce week-end, on va célébrer la Toussaint. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez commencer par rappeler rapidement quelle est cette fête de la Toussaint qui, justement, a tendance à se faire un petit peu effacer par la célébration d'Halloween qui, elle, n'a plus rien de sacré?
Oui, bonjour à tous. Alors, la célébration de la Toussaint, c'est une fête très ancienne dans l'Église et qui consiste, comme son nom l'indique, à fêter tous les saints du ciel. Nous approchons de la fin de l'année liturgique, puisque l'année liturgique commence avec l'Avent au début du mois de décembre, qui va préparer le cycle de Noël. Et en fait, dans l'Église, coup sur coup, l'Église militante, avec la fête du Christ-Roi qui a été instaurée au XXe siècle, donc à la fin, pour le dernier week-end d'octobre. Et puis ensuite, l'église triomphante. Et la fête de la Toussaint, c'est l'église triomphante, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés, les générations entières de chrétiens qui se sont sanctifiés, donc les saints connus, les saints célèbres, comme tous les saints anonymes, tous ceux qui sont au ciel avant, et qui sont passés avant nous, qui ont parcouru le chemin terrestre pour parvenir à l'éternité, à la vie éternelle. Et puis, on fêtera juste après le 2 novembre. Alors, cette année, ça tombe un dimanche, donc c'est repoussé au 3 novembre. Mais en fait, la fête des morts, l'église qu'on appelle l'église souffrante, ceux qui sont au purgatoire et qui attendent leur délivrance pour aller au ciel. Donc, c'est cette fête a un peu pour but de montrer que finalement, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes reliés à ceux qui nous ont précédés et nous suivons leurs traces. Nous sommes reliés à ceux qui sont déjà au ciel, ceux qui sont déjà dans la gloire, qui ont déjà vaincu le chemin terrestre pour parvenir à la récompense éternelle.
Alors on voit qu'aujourd'hui, la Toussaint comme la fête des morts se sont retrouvés effacés pour une seule et même célébration, encore une fois, Halloween, qui est évidemment extrêmement prisée par la jeunesse. De quel œil est-ce que vous voyez, vous, cette fête, Julien Langelas, puisque vous travaillez au contact d'enfants ?
Écoutez, ce que je constate tout d'abord, c'est que on entend souvent, vous savez, dans les discussions de famille, oui, bon, cette année, Halloween, ça ne prend pas. Les gens ne suivent plus, et puis on se rassure comme ça. Et pourtant, moi, je vois toujours autant de toiles d'araignée, de fausses citrouilles et de têtes de monstres dans les devantures des boulangeries. Et à partir du moment où on se dit « ça prend plus », en fait, c'est que ça a vraiment pris. C'est que c'est vraiment rentré dans le calendrier laïque des Français. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis, ce qui me choque le plus dans cette affaire, vous voyez, c'est pas vraiment un retour au paganisme ou autre. Je pense qu'on est très en dessous du niveau de moralité et de spiritualité des anciens Européens qui étaient païens et qui vénéraient leurs morts. Nous ne vénérons pas les morts. Nous les cachons de la même manière que nous cachons la souffrance dans les EHPAD ou par le biais de l'euthanasie. Mais on célèbre une espèce de morbidité complètement déconnectée du réel, ne ressemblant à rien de ce qu'on voudrait vraiment expérimenter dans le réel, parce que personne n'a envie de devenir tueur en série pour s'amuser. Et donc, je pense que c'est le symptôme d'une société malade, mais qui n'est pas revenue au paganisme, qui est revenue à un stade encore inférieur, qui n'est même pas le stade des hommes préhistoriques qui respectaient leurs morts, parce que souvent, ils les enterraient dans une position fœtale et dans la terre. Tu retourneras à la terre. On est à un autre stade de décadence. Et en effet, il y a cette fascination chez les plus jeunes, et il ne faut pas croire, même dans les milieux les plus préservés, mais finalement, pour le mal, pour ce qui fait mal. Et ça ne se matérialise pas toujours dans nos familles par le fait de fêter Halloween, mais ça se matérialise par le fait d'endosser le rôle d'un méchant. Endosser le rôle d'un méchant, c'est chouette. Je vous renvoie au succès du film Maléfique, il y a quelques années, dont l'héroïne était non plus Blanche-Neige, mais la sorcière.
Ouais. Monsieur l'abbé Raffray, quand... on parle justement de ce rapport à la mort. On a l'impression avec Halloween qu'il y a la volonté de rendre ça encore une fois très graphique, mais dans le sens presque risible. On va tout singer. Effectivement, il y a ce côté très américain dans la représentation de la mort, et on pourra revenir là-dessus. Est-ce que c'est pas une façon justement d'effacer ce qu'il peut y avoir de sérieux dans la mort et donc de sacré? Un sujet que les Français, donc plus largement les Européens, sont beaucoup moins prêts à aborder. On voit qu'en fait, quand ils rendent tout ça risible, c'est justement parce qu'ils n'arrivent plus à côtoyer la mort. C'est plus facile d'en rire que de prendre ça au sérieux.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julien. On est bien en deçà d'une prise au sérieux et d'une considération philosophique ou même existentielle sur la mort. Parce que il y a une façon de rire de la mort. Par exemple, moi-même, je suis à moitié mexicain, donc au Mexique, il y a une tradition de le jour des morts, de faire des petites têtes de mort en sucre, mais évidemment, pour rire de la mort, de les colorer, etc. mais pour aller les porter sur les lieux dans les cimetières, pour aller prier sur les tombes de nos ancêtres. Donc en fait, il y a une façon sérieuse de rire. C'est une façon sérieuse de se moquer de la mort. Là, avec Halloween, on n'est même pas dans le sérieux. C'est vraiment plutôt pour moi, il y a la dimension plus de consommation qui est très symptomatique de notre civilisation. C'est-à-dire que on a remplacé le sérieux par la jouissance, le rire gras et la consommation. C'est-à-dire que le but d'Halloween, c'est simplement de parce que moi, franchement, peut-être que je ne fréquente pas les bonnes personnes, mais j'ai l'impression qu'autour de moi, vraiment, Halloween, à part, effectivement, dans les devantures des magasins, chez les boulangers, chez les coiffeurs, Halloween, c'est rentré peut-être dans les mœurs, mais plus comme une fête commerciale que comme quelque chose qui aurait un sens et qui signifierait profondément quelque chose. En fait, ça ne signifie pas quelque chose au sujet des morts ou de notre relation à la mort, ça signifie quelque chose au sujet de notre relation à la consommation et de notre individualisme. C'est la civilisation du spectacle, c'est il faut tout prendre à la légère, et c'est effectivement assez inquiétant de notre société contemporaine.
Julien Langelas, dans la façon dont les enfants évoluent, on est dans une société qui de toute façon est de plus en plus violente. On le voit à travers les jeux vidéo, par exemple. Encore une fois, la mort est omniprésente, mais pas du tout de façon authentique et de la bonne manière. Il y a cette américanisation qui a tout emporté. Est-ce qu'on peut encore justement essayer de renverser la balance, ou est-ce que face à cette machine de consommation, on se retrouve dans tous les cas assez démunis et condamné à ne pas faire le poids?
Je pense qu'on peut renverser la balance, en effet, comme le dit Monsieur Labbé. On peut rire de la mort, on peut entre guillemets inscrire notre vie. Voilà, autour de la mort, les morts sont vivants.
Ouais.
Les Celtes, autrefois en Provence, mettaient les têtes de leurs morts dans des niches au fronton de leur maison. Ils vivaient avec les morts. Il faudrait apprendre à vivre avec les morts, à fréquenter les cimetières. Et il faut rire d'Halloween. Vous voyez, moi, je vis dans un petit village, dans ce qu'on appelle la Vendée provençale, entre le nord des Bouches-du-Rhône et le sud du Vaucluse. Et j'ai vu sur le panneau d'affichage municipal, voilà, un message d'espoir: soirée anti-Halloween. Et soirée anti-Halloween, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était organisé par les savants. Et les savants, c'est pas une section locale de l'Académie française, c'est le nom du club de jeunes qui fait vivre le village, comme il y en a plein dans les villages ici. Et le programme, c'était abrivade, c'est-à-dire lâcher de taureaux accompagnés par les chevaux entre la manade et les arènes, et bodega. On va boire, on va danser, on va chanter. Bon, voilà un essai, pas très spirituel, mais déjà assez français et enraciné, de lutter contre une américanisation culturelle. Ça ne demande pas grand-chose, ça demande de s'inscrire dans un territoire où il y a déjà une tradition, en l'occurrence ici les taureaux, mais ça peut être autre chose ailleurs. Alors évidemment, je ne parle pas du fait de la Toussaint, le jour de la Toussaint ou le jour des morts. Cette fête a eu lieu par chez moi le 25 octobre, mais en Provence autrefois, le jour de la Toussaint, eh bien, on faisait une grande maraude, et certainement ailleurs en France, et on toquait aux maisons, non pas pour demander des bonbons contre un sort. Il faut savoir que quelques décennies encore, si on menaçait une vieille paysanne de recevoir un sort, elle vous mettait un coup sur la tête et puis c'était vite réglé. Mais on venait demander qu'il y ait de la nourriture pour les pauvres. Et puis, il y a évidemment ces processions qu'on peut organiser dans n'importe quelle paroisse de petits saints qui pourraient distribuer des petits bonbons avec des versets de la Bible à l'intérieur aux passants. En fait, il y a beaucoup de choses, je pense, assez faciles à faire, mais il faut que ça s'assoie sur du réel. En fait, Halloween s'assoit sur l'irréel. Sur Hollywood, en fait, et sur les mantras d'Hollywood, nous, il faut asseoir notre résistance culturelle sur le réel. Une tradition comme celle des taureaux ou des chevaux par chez nous, sur la charité, comme le fait de quêter de la nourriture pour les pauvres, ou sur l'évangélisation, en tout cas sur le réel de la foi, dans cette procession des enfants déguisés en petits saints patrons, voilà, dans un but missionnaire.
Vous l'avez rappelé, Monsieur Labbé, c'est quelque chose qui se fait en Amérique du Sud, et on a tendance à toujours lier la mort et la vie. C'est d'ailleurs le sens aussi de ce week-end qui enchaîne la Toussaint et la fête des morts. On a cette façon de s'interroger sur la mort et de l'interroger par rapport à la vie. Julien Langelas parlait des anciens Européens et du paganisme. On dit que c'est la période où justement le monde des morts est le plus proche de celui des vivants, et où on incite les vivants à repenser à leur mort et à essayer, en tout cas, d'être en communion spirituelle avec eux pour orienter nos vies, s'interroger sur le sens de tout cela. Finalement, on voit que la question qui est posée dans ces quelques jours de fête, c'est celle de la transmission. C'est peut-être avec cette question-là qu'aujourd'hui, le monde moderne se retrouve aussi un petit peu inconfortable.
Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la fête de la Toussaint ou la fête des morts a pour but de nous relier à d'autres générations, de nous relier aux autres. La civilisation gréco-romaine et donc la civilisation chrétienne, dont elle est aussi une continuation, une transcendance, est fondée sur le foyer avec, comme disait Julien, c'est-à-dire que des civilisations dans lesquelles les morts sont présents. Et les ancêtres sont présents, les ancêtres de la famille. Et donc, que cette fête de la Toussaint soit l'occasion, effectivement, d'honorer nos propres ancêtres. Je pense que c'est ça qu'il faut faire principalement, c'est sortir l'homme moderne de son individualisme consommateur. Et comment le faire? En le reliant au réel, mais un réel qui dépasse sa propre vie individuelle. En le reliant à ses ancêtres. On a tous des ancêtres, ça c'est sûr et certain. Et donc on a tous quelqu'un dont nous pouvons faire la mémoire, pour lequel nous pouvons prier, que nous pouvons aller honorer sur sa tombe, ou au moins symboliquement, en allant visiter un cimetière. Et d'ailleurs, j'aimerais, Julien, parler de réalité concrète anti-Halloween. J'aimerais parler justement d'une initiative que j'ai trouvée excellente, qui s'appelle Lumière de Toussaint, et qui... je crois que ce sont des jeunes, alors je ne connais pas les personnes qui sont à l'origine de ça, mais je vous invite à aller voir sur Instagram, les sites, sans doute Facebook aussi, et qui invitent les gens à retrouver cette tradition d'aller dans les cimetières pour poser des bougies, pour mettre des petites lumières. Et je pense que c'est... Ils appellent à illuminer nos cimetières pour la Toussaint, que ce soit le 1er novembre ou le 2 novembre. Et il me semble que c'est... ils appellent ça une lumière pour nos morts, une flamme pour notre mémoire. Et je pense que c'est une belle initiative et que chacun peut le faire un peu symboliquement dans son cimetière. C'est vrai qu'on a tous à côté de chez nous un cimetière. Alors évidemment, c'est en général un lieu que l'on évite. Et c'est d'ailleurs très rassurant de rentrer dans un cimetière vivant, évidemment, parce que si on y rentre mort, c'est beaucoup moins drôle. Mais d'y rentrer tant qu'on est vivant et de faire face à la mort, c'est-à-dire d'assumer cela comme une réalité... qui va tous nous toucher. Je disais tout à l'heure, on a tous des ancêtres qui sont décédés. On est aussi tous certains d'une seule chose, c'est qu'on va mourir un jour. Et donc c'est peut-être ça qui fait la communauté de notre humanité. Et dans un monde très individualiste, il n'y a plus de communauté, on se plaint des déchirures, enfin à juste titre, de la société. Eh bien, se retrouver autour de ce qu'on a en commun, que ce soit nos ancêtres ou que ce soit le fait, la nécessité de mourir un jour, c'est sans doute un acte civilisationnel, quelque chose qui peut transformer la société. Donc voilà, par exemple, cette initiative d'aller mettre des bougies dans les cimetières, je vous invite à aller voir ce que propose cette initiative, donc Lumière de Toussaint, et peut-être à faire cela, aller prier dans un cimetière, entrer dans un cimetière, faire une prière, et voilà.
Oui, puis plus largement, chaque famille, je pense, peut mettre en place quelques traditions très intimes pour justement vivre cette période. Ça peut être reparler des grands-parents qui ne sont plus là, évoquer leur vie, leur héritage, parler de la famille. Encore une fois, il y a toute cette question de la transmission. Emmener ses enfants sur la tombe des grands-parents, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de parents qui auraient peur de le faire en se disant c'est un peu trop morbide, c'est peut-être trop rude d'aborder cette question de la mort avec des enfants, alors que finalement c'est quelque chose probablement d'assez sain, Mathieu Raffin.
Mais précisément je reviens là-dessus parce que la tradition de l'Église, c'est la sagesse de l'Église a été de donner une indulgence plénière pour un défunt le jour de la fête des morts. C'est-à-dire, si on visite un cimetière le 2 novembre ou même dans la semaine qui suit la fête de la Toussaint, donc toute la semaine du 1er au 8 novembre, si l'on visite un cimetière, eh bien on peut obtenir une indulgence en condition de prier pour les morts, et puis soi-même, évidemment, de se confesser, de communier, et de prier aux intentions du souverain pontife. Et justement, ça, c'est la pédagogie de l'Église. C'est puisque certains pourraient peut-être avoir peur de faire cette démarche, eh bien, l'Église nous incite à le faire, et donc, évidemment, pour nous aider à faire face à la mort et à apprendre aux enfants à adopter une mort chrétienne.
Mmh. Julien Langela, sur cette peur de la mort, et qui d'ailleurs est souvent concerne parfois les adultes et qu'ils transmettent à leurs enfants, c'est probablement aussi l'un des symptômes de notre société qui a perdu le sens du sacré, une forme de spiritualité, puisqu'aujourd'hui la mort, c'est plus qu'une fin biologique, et effectivement il y a quelque chose d'effrayant et de vertigineux à cela. Peut-être que retrouver donc la sacralité, la spiritualité qu'il nous manque aujourd'hui, ce serait aussi un soulagement pour beaucoup de Français quand ils se repositionnent vis-à-vis de leur mort ou de celle de leurs proches.
Tout à fait. Je pense que l'absence de sacré ou la démonétisation du sacré joue un rôle dans le développement d'Halloween et notre rapport faussé aux morts. J'étais récemment à un enterrement auquel était invité un musulman qui partageait avec moi le récit de l'enterrement de son père, et il me disait qu'il était inconcevable dans l'islam que des étrangers, que des mains étrangères touchent le corps et le cercueil de quelqu'un de la famille, en l'occurrence de son père, et que c'est lui-même avec ses frères, sous les indications du responsable des pompes funèbres, qui a descendu le corps après l'avoir transporté sur leurs épaules, qu'il a descendu à l'aide de cordes dans le caveau. Eh bien voilà, moi, qui m'a beaucoup impressionné. J'ai découvert que l'Église catholique, les autorités de l'Église catholique autorisaient l'incinération, que M. l'abbé me corrige, dans la mesure où ce n'est pas le signe d'une croyance au panthéisme et une profession de foi antichrétienne. Voilà. Et de fait, je me retrouvais bien dépourvu d'arguments devant ce musulman, et quand je lui ai demandé « mais quelle autorité autorise cela ?» il m'a dit « non, mais il n'y a pas d'autorité, c'est la tradition chez nous ». Voilà le poids de la communauté, le poids de la tradition que nous avons un petit peu perdu, nous, catholiques. Mais c'est lié pas seulement à la question du sacré, c'est une question de piété filiale. Souvent, à la Toussaint, notamment en Provence, certainement ailleurs, à table, on se fait un devoir de parler des morts et de chanter leur haut fait, comme on le fait d'ailleurs à la veillée de Noël. Mais si on ne sait plus rien de nos anciens, que l'on a culpabilisé comme étant des vieux réacs qui n'auraient rien à transmettre aux jeunes générations, ben on ne peut pas les honorer une fois morts. Donc il y a la question aussi de la piété filiale, du temps de leur vie sur Terre, à toutes ces personnes que nous voulons honorer une fois qu'elles ont été rappelées à Dieu. Encore une fois, j'étais à un événement familial, et mon oncle m'a raconté qu'il avait fait la guerre d'Algérie, et qu'il était pendant 3 jours dans le Djebel, et que tous les membres de son escouade sont fait tuer, et qu'il était tout seul à se faire canarder derrière un rocher. Et je lui ai dit, mais attends, pourquoi ne nous as-tu jamais raconté cela? C'est quand même un haut fait. Mais il était tout étonné, il faisait des grands yeux de gobe, et il me disait, mais je ne pensais pas que cela pouvait t'intéresser. Voilà, on a culpabilisé nos vieux, comme d'ailleurs on a culpabilisé dans les campagnes les gens qui parlaient leur langue maternelle, leur langue régionale, et qui donc se sont mis à parler le français de Paris. Et de la même manière, il y a ce phénomène psychologique d'intimidation des vieux qui n'osent plus parler. Faisons parler nos vieux. Ils ont tous des histoires à raconter, et même si ce n'est pas des grandes histoires de gloire militaire, c'est des tranches de vie qui sont des témoignages de l'ancienne France qui étaient clafites de vertu. Et donc je pense que voilà, le culte des morts et de la mémoire, ça commence par de la piété filiale avec les vivants.
Mmh. Oui, ce sont des mots très justes, Julien Langela. Monsieur l'abbé Raffray, sur cette question de la spiritualité qui manque aujourd'hui à nos sociétés, voilà, comment est-ce qu'on pourrait la retrouver et donc d'une certaine façon soulager tous ces gens qui se retrouvent assez déracinés, donc mal à l'aise vis-à-vis de la mort, puisqu'encore une fois, c'est vécu comme une fin biologique et que ça a de quoi être effrayant.
Je dirais, premièrement, regarder la mort en face pour soi-même, et puis avoir un vrai esprit de surnaturel, enfin chrétien, c'est-à-dire qui vise la vie éternelle, parce que on a l'impression que parfois on passe un peu à côté, mais au fond, être chrétien, c'est croire qu'on n'est pas fait pour ce monde, mais qu'après cette vie, il y a une autre vie, qui est bien plus belle, bien plus intéressante, bien éternelle. sans souffrance ni déception. Donc, et qui vaut la peine de passer tous les sacrifices, les souffrances, les épreuves de cette vie, parce qu'on est appelé à une autre vie et à quelque chose de bien plus grand. Donc, évidemment, parler de la mort, parler des saints, parler de ceux qui nous ont précédés, c'est évidemment se remettre face à cette vérité de notre destinée éternelle. Et donc, premièrement, pour retrouver cette spiritualité, ce lien avec les ancêtres, avec une considération sérieuse sur la mort, il faut d'abord considérer la vie éternelle pour soi-même et se mettre... C'est peut-être ça, finalement, la peur de la mort. C'est que voir la mort en face, ça implique de se regarder soi-même en face et de se regarder soi-même en se disant quelle est la valeur de ma vie aujourd'hui et quelle est l'éternité qui peut m'attendre. Donc, effectivement, on est là au cœur de quelque chose qui est bien plus qu'un phénomène de société ou qu'un problème sociétal, comme on dit. Mais on est vraiment au cœur de la soif de transcendance de l'homme et de la nécessité de retrouver ce pour quoi nous sommes faits, que l'on soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, se remettre face à l'éternité. Et puis, deuxièmement, comme on l'a déjà mentionné, retrouver un sens de ceux qui nous ont précédés, sens le culte de nos ancêtres, que ce soit en honorant leur mémoire, comme vient de le dire Julien, ou que ce soit en honorant leur sépulture. Ça, c'est un point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui me semble tout à fait très symbolique, très très central dans la spiritualité chrétienne, à savoir le rôle du corps. Julien mentionnait tout de suite la question de la crémation, effectivement, qui est permise dans l'Église catholique quand on a une bonne raison, par exemple en cas d'épidémie, en cas de guerre, de massacre, enfin qu'on peut pas enterrer tous les corps. Aujourd'hui, c'est un peu plus large, c'est dans le sens où, on peut être enterré si ce n'est pas l'expression effectivement d'une négation de la vie éternelle. Mais ce qui est central, c'est la place du corps, c'est-à-dire que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Nous sommes corps et âme, et quand on est chrétien, on pense aussi que notre corps va ressusciter à la fin des temps. Il va ressusciter dans un état bien différent de celui actuel. J'espère que j'aurai des cheveux au jour de la résurrection. C'est central. C'est quelque chose qu'on oublie. Quand on est chrétien, on pense que Dieu nous a donné une âme, évidemment, qui est faite pour l'éternité. Je viens d'en parler, mais aussi un corps qui est le lieu où cette âme vit et qui est l'instrument de cette âme. C'est-à-dire qu'on a tout ce que nous le faisons à travers notre corps. Et donc, retrouver le sens de la corporéité, le sens de notre incarnation, de notre carnalité, parce que on parlait tout à l'heure du mépris des morts et donc de l'oubli de l'âme, de l'oubli de l'éternité, mais on peut dire que notre société aussi est une société d'une violence incroyable contre les corps, avec tout ce qui est pornographie, tout ce qui est l'esclavage industriel, etc. C'est-à-dire que retrouver le sens du respect de nous-mêmes, du respect de soi-même, et du respect de l'autre, et du respect de notre âme et de l'âme de l'autre, à travers le respect des corps. Et tout est en jeu, en fait, finalement, dans cette question. Qui nous sommes? Nous sommes des êtres humains destinés, donc corps et âme, mais destinés à la vie éternelle. Mmh.
Julien Langelas, je peux vous laisser réagir à ce que vient de nous dire l'abbé Raffray, mais ensuite, surtout en deux minutes, puisqu'ensuite, c'est la fin de cet entretien, malheureusement. Est-ce que vous pourriez, encore une fois, peut-être... conseiller aussi aux parents qui nous écouteraient, aux grands-parents qui nous écouteraient, la façon dont ils peuvent repenser tout l'imaginaire qui est développé autour de ce week-end de la Toussaint. Parce qu'on le sait, c'est aussi attrayant pour les enfants, aller creuser des citrouilles, mettre des bougies dedans, se déguiser, décorer la maison. Donc voilà, comment est-ce qu'en fait on peut reprendre ça et peut-être le modifier pour garder cet aspect attrayant, récupérer l'intérêt de nos enfants et en même temps leur offrir quelque chose de beaucoup plus sain et surtout qui aurait du sens.
Vous m'entendez, Liselotte ?
Je vous entends, oui.
La fin de votre phrase a été coupée, mais je crois avoir compris l'essentiel de votre propos. Je pense que au cours de cette dimanche-là qui arrive, ce doit être l'occasion de fêter la mémoire de nos anciens. Alors, je dis fêter, la Toussaint, c'est pas... c'est pas une surprise partie. C'est, voilà. Mais c'est, à mon avis, le moment où la famille doit se resserrer autour du foyer, autour de la parole de l'ancien. Et il y a plein de moyens ludiques de redécouvrir l'histoire des gens de notre famille, d'abord par le souvenir. Il faut, à mon avis, à tout prix, associer à tout ça, à la visite des vieux. Ça, c'est fondamental. C'est très important. Et puis, pour ceux qui n'ont plus de vie de famille, parce qu'on vit dans un monde complètement désaxé, ça peut être la redécouverte de son saint patron. Ça peut être faire un travail, un exposé, parler de la vie de son saint patron. Ça peut être découvrir des chants de la Toussaint. Mais la famille doit être mise au centre. Et puis cette notion du corps, elle est aussi évidemment fondamentale, parce qu'on est un peu les nouveaux cathares, nous autres les Occidentaux, on rejette le corps. Donc soit on le brûle, soit on l'étuit, soit on le nie, soit on l'étuit dans une frénésie de plaisir. Redécouvrons donc au ciel, en question de la Toussaint, une certaine frugalité mêlée à l'abondance de cet amour familial. On peut organiser des petites processions dans les cimetières, entre guillemets.
Julien Langelin, on vous entend extrêmement mal, donc je pose une dernière question à l'abbé Raffré, et si vous le voulez bien, on vous prend par téléphone, parce que votre réponse m'intéressait, je pense qu'elle intéressera aussi les auditeurs. De toute façon, on attend notre partenaire d'SOS Chrétien d'Orient, qui n'est pas là, lui aussi, décidément ce matin c'est compliqué, donc c'est l'occasion de discuter encore quelques minutes avec vous. Voilà, j'espère que ça passera un petit peu mieux par téléphone et qu'on pourra entendre votre réponse. Mais donc, monsieur l'abbé Raffré, même question qu'à Julien Langelin. Comment est-ce que vous conseilleriez aux familles d'aborder ce moment de la Toussaint, et donc en particulier cette question de la mort vis-à-vis des enfants, qui, encore une fois, on peut le comprendre, peut être assez sensible pour certains parents?
Je vais vous faire part de ce que mes propres parents m'ont transmis quand on était petit. Le jour de la Toussaint, c'était vraiment la tradition familiale. L'après-midi, on allait tous en famille au cimetière. Alors, on choisissait le cimetière. Il y avait toujours des grandes discussions familiales pour savoir dans quel cimetière on irait. Et puis, on allait même des cimetières près de chez nous, là où on n'avait pas spécialement d'ancêtres enterrés. Et on regardait les tombes, on essayait de voir les différentes, de comprendre les significations. Mon père nous expliquait que ceux qui avaient une colonne tronquée, c'était un symbole d'origine franc-maçonne, anti-chrétien, c'est-à-dire qu'ils ont montré la vie qui s'est arrêtée, au lieu de mettre une croix. Et on allait voir surtout, et ça j'invite peut-être les parents à faire la même chose avec leurs enfants, on allait toujours voir les tombes pour les enfants, parce que ça évidemment c'est très touchant, ouais. Et puis surtout on priait devant les tombes abandonnées, en se disant c'est peut-être des gens que personne ne va plus jamais visiter. Nous on n'a pas d'ancêtres enterrés, de gens qu'on a connus qui sont enterrés ici, on va les prier pour ceux pour lesquels personne ne prie, et penser à ceux qui ont vécu et auxquels plus personne ne pense. Et ça, je pense que c'était très éducatif, et franchement ça m'a pas du tout troublé, et je pense qu'aucun de mes frères et sœurs n'a été troublé. C'était même un très beau moment justement d'unité spirituelle, d'unité familiale et de prière commune. Et quand on revenait, je me souviens toujours, alors il faut faire un bon goûter après, comme ça pour allier l'utile et l'agréable, mais il y avait vraiment cet esprit de fête, de se dire, en fait, il y a des gens qui nous ont précédés, beaucoup ont été des anonymes, qui ont été oubliés, mais nous, on ne les oublie pas. Et on va même penser à ceux auxquels personne ne pense.
Je pense
que c'est un beau geste de charité.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de tombes abandonnées, et je pense que c'est l'occasion. Je sais qu'il y a certains Français aussi qui tentent de nettoyer ces tombes-là, et qui régulièrement vont les entretenir. Donc c'est un beau geste. Julien Langelin, je crois que vous êtes avec nous par téléphone. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Je vous entends bien. Vous
merveilleux. C'est beaucoup mieux. Est-ce que vous pourriez donc nous répéter la réponse à ma dernière question, puisque encore une fois, oui. Je pense que les auditeurs seront contents de l'entendre.
Mais je pense que, en effet, l'importance des cimetières doit être signifiée aux enfants. Je pense qu'on peut défiler entre guillemets en petite procession familiale, en chantant, en priant, relativement discrètement, sans gêner les autres. Jusqu'à la tombe de nos anciens. Je pense que ça doit être l'occasion aussi, la visite d'un cimetière, pour apprendre aux enfants ce qu'est un cimetière, comment on enterre les morts, ce qu'il y a en dessous de la dalle. L'enfant est très concret, il a besoin de comprendre les choses, parce qu'il prend le bon Dieu au sérieux, il prend les vérités éternelles, parce qu'il prend par nature la vérité au sérieux. Et donc, ça doit être une occasion de faire connaître ces lieux. Souvent, on se demande, vous savez, à partir de quand l'Occident a-t-il chuté ? D'aucuns disent la Révolution française, d'autres le chauffage central. Eh bien, je propose la réponse suivante, c'est qu'à partir du moment où les cimetières ont été évacués des villes, quand les cimetières ne sont plus adossés à une église, mais dans un faubourg, dans un lotissement pavillonnaire à l'américaine, en dehors des centres-villes, en dehors de là où on vit. Voilà, on a mis les morts en dehors de nos villes, comme on met nos vieux dans des EHPAD.
Ouais.
Et donc, il faut remettre les cimetières au centre de nos vies, et ça doit être l'occasion d'une catéchèse aussi pour les enfants. Ça doit être l'occasion de s'arrêter devant une tombe. Tiens, elle est née à telle époque, elle est morte à telle année, cette personne, qu'a-t-elle connu ? A-t-elle connu la guerre ? Oui, non. Peut-être a-t-elle participé à cette guerre ? Il faut que cette journée consacrée aux morts soit aussi l'occasion de récits, et de récits vivants. Voilà, parlons des hauts faits de nos morts, et puis si on n'a pas de hauts faits, ou si on n'a pas une vie familiale très riche parce qu'on est des fils de divorcés et qu'il y a des problèmes de famille ou autre, je ne sais quoi, bien nous avons des saints patrons où nous pouvons nous intéresser tout simplement à notre nom, à l'histoire de notre famille et partager cela avec tous les gens qui nous sont proches.
Voilà, plein de belles suggestions pour ce week-end, chers auditeurs, et puis sur ces cimetières qui sont en dehors des villages, effectivement... Vous allez avoir du mal à aller les rapporter au centre de vos villes avec quelques pelles. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, je pense, c'est déjà remettre au cœur de vos foyers la présence de ceux qui vous ont précédé. Peut-être ce que suggérait, je crois, Romain Petitjean, mettre des photos des grands-parents, des arrière-grands-parents, rappeler voilà où ils habitaient. C'est toujours quand même un bon moyen de ramener nos ancêtres au cœur de nos vies. Merci beaucoup Julien Langelas d'avoir été avec nous. Vous êtes éducateur et vice-président d'Academia Christiana. Merci à vous aussi Monsieur l'Abbé. Je rappelle que donc vous êtes professeur de philosophie thomiste à l'Université Pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Les auditeurs peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très actifs, Twitter, Facebook, Instagram. Et donc vous avez rédigé Le plus grand des combats aux éditions Eteri. Merci donc à tous les deux d'avoir remis l'église et en tout cas nos morts au centre du village ce matin. On espère que les auditeurs sont donc armés pour ce week-end de la Toussaint, qui pourront célébrer ça de la façon la plus digne possible, on n'en doute pas. Je vous dis à très bientôt et donc bon week-end.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et on poursuit avec vous, Gilles.
Oui, bonjour Liselotte, bonjour Arnaud.
Je suis ravie de vous avoir, vous êtes l'un de nos seuls chroniqueurs qui ne nous a pas fait faux bond ce matin.
Ben non, moi si je n'étais pas venu, j'aurais prévenu, comme on dit.
Oui, il paraît que c'est la politesse. Que devient Bruno Retailleau ? C'est à cette question que tente de répondre le Parisien ce matin.
Oui, alors Quentin Laurent fait le point sur la situation de l'ancien ministre de l'Intérieur qui, écrit-il, n'a fait qu'une bouchée de son concurrent Laurent Wauquiez pour la présidence du parti et c'est poussé dans son dos des ailes, poussé dans son dos des ailes d'un aspirant candidat à l'Élysée. Voilà Retailleau, toujours animé d'un appétit d'ogre pour son parti, mais désormais forcé de chausser les souliers bien plus modestes de chef officiel de LR pour s'élancer vers la suite de ses aventures politiques. La France, qui n'a jamais été aussi à droite et qui est gouvernée à gauche, c'est à désespérer de la politique, s'insurge Bruno Retailleau. Installé à la grande table qui meuble son bureau du premier étage au siège de LR, place du Palais Bourbon. Pour l'heure, donc, il redit son anti-macronisme et pense que pendant un an à Beauvau, je cite, « j'ai senti le pays et beaucoup de Français m'ont aussi davantage connu ». Estime celui donc qui deviendra bientôt sénateur, ou plutôt redeviendra sénateur évidemment. Nous allons apporter des solutions novatrices aux problèmes des Français, avance-t-il, et il annonce aussi une tournée pour aller à la rencontre des militants et des sympathisants afin, dit-il, de se confronter à la réalité, à cette France qui est en train de prendre conscience du déclin auquel, selon moi, il n'y a pas de fatalité, dit-il. Premier déplacement jeudi, alors c'est un peu surprenant, c'est à La Baule, c'est peut-être pas la France profonde, mais bon, pourquoi cette ville mystère ? En tout cas, Bruno Retailleau croit à l'utilité des primaires avant la présidentielle et il aimerait faire trancher les adhérents et le parti afin d'attaquer la rentrée 2026 avec un candidat désigné. Oh, 2026, c'est demain. Hein. Un chemin de croix, conclut Quentin Laurent, à lire dans Le Parisien.
Et le Figaro littéraire pose la question, que reste-t-il des hussards ? Cet écrivain répond.
Oui, alors pas de journalisme, pas d'excès de vitesse sur la route, pas de politique, car tout est perdu. Restez tranquille, recommandait Paul Morand à son turbulent cadet, Roger Nimier. Mais oui, on le sait, Roger Nimier mourra à 36 ans d'un accident de voiture aux côtés d'une jeune romancière prometteuse. Et à l'occasion de son centenaire, chef de file des mouvements littéraires des années 1950-1960, que l'on a appelé les Hussards, Le Figaro a interrogé ses auteurs sur leur héritage. Et parmi eux, Christian Autier, l'auteur de « Comme un père » aux éditions du Rocher, qui confie « Pour ne retenir que les quatre hussards historiques, Nîmier incarnait l'insolence et le brio, Blondin la drôlerie et la mélancolie, Laurent l'intelligence et le souffle, Déon le désenchantement et la faculté d'émerveillement. » Et pour Éric Neuf, ils nous auront appris que la littérature se confondait avec une cour de récréation, que le plaisir pouvait se décliner en caractère d'imprimerie, champagne, voiture rapide, rugby, film de Louis Malle en noir et blanc, désinvolture, amitié. Ce programme nous convenait, il n'a guère changé. Leurs livres sont là, alignés sur les étagères comme des soldats à la parade, ils n'ont pas vieilli. Et Cécile Laurence, l'auteur de La Maison de Dieu, prix Jean-René Huguenin, c'est une attitude qui consiste à ne pas vouloir perdre son temps avec des rôles comme ceux relevant de la bonne conscience ou de la gloriole. Se moquer de l'étiquette, faire preuve d'audace, de pugnacité, d'humour, montrer que les grandes luttes sont intérieures avant d'être extérieures. Et je peux aussi citer Olivier Frébourg, c'est le patron des éditions Les Équateurs, auteur du roman Un frère unique au Mercure de France. Le hussardisme est un cocktail provocateur, remède à la vitrification de notre époque. Blondin, Déon, Dorman, Franck, Hédin, Séquet, Laurent, Nîmier forment une famille recomposée, ivre de liberté et de générosité. C'est la fronde contre l'assignation, l'humour contre l'esprit de sérieux. On a l'impression que c'est la morale de Radio Courtoisie un peu. Hein. Mmh. La morale contre la leçon, la fantaisie contre la grisaille, la poésie contre la prison. Donc c'est à lire dans Le Figaro littéraire.
C'est vrai que ce sont des attitudes qui nous parlent à
Exactement.
Radio Courtoisie. Cette semaine s'est ouvert le 30e salon du chocolat Porte de Versailles qui se déroule jusqu'à dimanche soir. Gilles, vous nous aviez promis des chocolats.
Eh ben attendez, chaque chose en
Moi,
son
temps. Moi je ne perds pas le nord. Hein.
Cela ne vous a pas échappé ma chère Liselotte. Et le magazine Gomillot, je peux le montrer peut-être à l'antenne pour Arnaud.
Mais donnez-le moi, je
vous le laisse d'ailleurs, je vous l'offre. Ah bah, le média de référence de la gastronomie et de l'hospitalité comme il se présente consacre un dossier au chocolat dans son numéro daté d'octobre, novembre, décembre, que je vous invite à lire. Ainsi, un article est consacré à ce qui fait figure de qualité et qui passionne les accros au cacao. Je vais parler de ce qu'on appelle de la fève à la tablette, autrement dit en bon français, le bean to bar. Voilà ce qu'écrit Géraldine Meignan et qui résume bien la situation où la vogue aujourd'hui de cette démarche à des années-lumière des chocolatiers qui se contentent de fondre et de mélanger un chocolat dit de couverture acheté à des industriels. Les adeptes et défenseurs du bean to bar maîtrisent l'intégralité du processus de fabrication d'un cacao, pure origine bien sûr, depuis la sélection des fèves dans les plantations jusqu'au moulage des tablettes. En quête de typicité, ces artisans recherchent des arômes, des saveurs et de la longueur en bouche. L'auteur de l'article rappelle que le mouvement est né aux États-Unis dans les années 90 lorsque deux Californiens ont entrepris de fabriquer leur propre chocolat équipé d'un mortier, d'un pilon, d'un moulin à café, d'un sèche-cheveux. Ils ont alors ainsi exploré dans leur cuisine une trentaine de variétés différentes de fèves de cacao. Et pratiquement à la même époque, un Américain de Denver, dans le Colorado, Steve Derris, s'est mis lui aussi à transformer des fèves rapportées du Costa Rica. Une révolution, car le chocolat était plus onctueux. Et vous lirez la suite dans le numéro de Gomillot qui consacre quelques pages aux accords possibles entre les chocolats et les alcools. Ça, c'est un peu mon dada parce que je supporte pas qu'on sorte des bouteilles de champagne au moment du dessert en chocolat. Ça, c'est un très mauvais accord. Le magazine réunit justement un chocolatier, Thomas Pontac, installé à La Rochelle, et Nicolas Brossard, chef sommelier du restaurant de Christophe Coutançois à La Rochelle, élu meilleur directeur de salle de l'année 2025 par Gomillot. Le chocolat au lait accordé à un vin doux naturel, ou un vin de liqueur, un pinot blanc et aussi un Bagnouls 2020. Alors, j'en ai pas apporté. Les pralinés avec des pinots et des cognacs ou des Bagnouls de vieux Rizval. Mais je vous ai apporté
Comment
quand
ça,
même...
Comment ça, vous n'avez pas apporté de Bagnouls, Gilles Brochard?
Je vous ai apporté... Alors, vous savez qu'on fête aussi les 30 ans du Salon du Chocolat et c'est les 30 ans de présence de Jean-Paul Évin qui a été élu meilleur chocolatier du monde il y a 2 ans. Et je vous ai apporté sa barre gigalet
Mais merci,
que vous pouvez
Gilles.
Partager
Et on va partager ça avec l'équipe.
Il y a une très belle exposition sur ces photos, sur les photos de toutes ces créations. Et là, je vous ai apporté sa tablette, justement, les caramels aux fleurs de sel.
Mais déjà, la barre me fait beaucoup envie, parce que le chocolat aux noisettes, moi, c'est vraiment le truc qui me fait craquer.
Goûtez ça, on va donner aussi à la petite Adèle qui est derrière. En plus, c'est son avant-dernier jour, alors on va quand même lui donner des chocolats. Et puis, Louis, il ne mange pas de chocolat dans la journée, donc il sera privé.
C'est ça, voilà, je mange rien, en fait. C'est pas une question de chocolat. Double cadeau.
Alors, surtout, laissez fondre en bouche. Il faut savoir sucer un chocolat, et ensuite, vous le croquez. Et là, vous avez tous les arômes qui reviennent en bouche.
C'est
entre
délicieux.
Le palais, la langue, respirer, et voilà. Et Arnaud est frustré, mais on va lui en donner à la fin du studio. Le
merci
salon qui est porte de
gentil.
Versailles, hein, jusqu'à dimanche soir, là j'y retourne après, allez voir le Pastry Show. Pastry Show, c'est toutes les masterclass, les dégustations en direct avec des grands chefs pâtissiers, et Mercotte qui anime. Moi je suis derrière, j'écoute, je regarde, je déguste, je prends quelques photos.
Mais je crois que je vais venir avec vous, Gilles.
Bah, venez.
Ah, mais oui, non, mais c'est l'occasion de goûter du vrai chocolat. Parce qu'il y a
on sent la différence avec un chocolat.
Non, mais exactement. Il y a un manque d'éducation culinaire vis-à-vis de certains aliments, notamment le chocolat. On ne sait plus ce qu'est le vrai chocolat. Et vrai que
ça s'aggrave. Il faut faire des initiations. On a eu la semaine du goût il n'y a pas longtemps. Il faut initier les enfants à sucer, à croquer, à apprécier les bons chocolats, à savoir c'est comme boire un vin, c'est comme boire un thé, il faut avoir une petite éducation, et après, c'est un vade-mecum pour la vie.
Mais celui-ci est très bon.
Et pour dire qu'il y a beaucoup de chocolatiers français, donc au sein du chocolat, il y a beaucoup de producteurs de pays comme Madagascar, comme le Brésil, qui est le pays d'honneur cette année, et donc, allez les voir, rencontrez-les, c'est passionnant, vous apprenez beaucoup, vous pouvez acheter aussi, alors j'ai pas apporté parce que c'est gros, mais je l'apporterai peut-être une prochaine fois, les pâtes à tartiner au praliné.
Ah oui, ça sent pas mal ça.
C'est la grande
veuve d'aujourd'hui. Ça va donner un vrai petit déjeuner.
Est-ce qu'on peut trouver du bon chocolat, mais avec un prix à peu près raisonnable? Est-ce que c'est pas très abordable tout ça?
Bah, c'est de plus en plus cher, mais bon, une tablette, c'est entre 5 et 10 euros, disons. Ça dépend quand vous voulez vraiment un grand cru.
Oui, c'est comme le vin. Hein.
Oui. Et puis, c'est des petits plaisirs de la vie. Puis c'est mieux que de fumer une cigarette.
C'est pas la barre qu'on va mettre dans une tranche de pain pour le goûter des enfants.
Non.
C'est en ça qu'il y a un manque d'éducation. Et d'ailleurs, le chocolat blanc, quel est votre avis dessus?
C'est de la graisse, c'est pas vraiment du chocolat.
C'est pas du chocolat, c'est ça qu'il faut comprendre.
Non, ça peut être un complément. Par exemple, j'aime beaucoup les tablettes de chocolat blanc au matcha, par exemple, avec une pointe d'amande.
Ah oui,
ça fait ressortir toute la saveur de ce thé un peu, de ce thé, oui, iodé. Et ça, c'est délicieux. Il y a James Bertier qui le fait. Il y a comment il s'appelle?
Je peux pas vous aider là-dessus, malheureusement.
Bon, il y en a un autre qui le fait. Ça va me revenir tout de suite. Donc, on trouve. Il y a beaucoup d'artisans qui travaillent beaucoup ces produits. La France est quand même champion du monde de la transformation du chocolat, du cacao en chocolat, et il faut les soutenir. C'est pour ça que les artisans viennent au salon et on peut connaître des artisans en province qui viennent, qu'on ne connaît pas forcément. Et ça, c'est une grande joie de les rencontrer.
Je pense que le chocolat, quand vous annoncez le prix, qu'on se dit « oula, c'est cher », c'est parce qu'aujourd'hui, on a aussi tendance à succomber à la consommation où on se gave.
Oui.
Mais en fait, si le chocolat, on arrête de se dire que c'est la tablette qu'on s'éclate devant une série... Et on retrouve le plaisir de manger son petit carré. Ça les vaut.
Il faut savoir bien le goûter, bien le désirer pour avoir plus de plaisir pour le manger après.
Merci beaucoup Gilles pour cette mini dégustation. Je pense qu'on a mis l'eau à la bouche à beaucoup d'auditeurs. Et c'est pas une blague, je vais venir avec vous.
Je vais terminer en souhaitant de belles aventures à Adèle, parce que je serai pas là demain pour lui souhaiter.
Merci Gilles.
Je sais qu'elle va bientôt en Arménie, on peut le dire.
Oui.
Et donc elle va vivre, d'abord c'est un pays gastronomique, on mange très très bien en Arménie.
Je vous donnerai des nouvelles de mes découvertes.
Mais j'espère. Et puis on vous souhaite bon courage, bonne chance.
Merci.
Et de belles aventures amicales, affectives, des belles rencontres, parce que je pense que c'est un pays accueillant, hospitalier en tout cas, qui a beaucoup été négligé dans notre histoire malheureusement.
Merci Gilles.
On recevra Adèle pour faire une émission sur l'Arménie en Zoom.
Avec plaisir.
Merci Gilles pour cette revue de presse, zone libre, dégustation de chocolat. Merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous sur YouTube et sur X. Je vous rappelle qu'il manque 200 000 euros à la radio pour finir l'année. Donc, merci Gilles de me redonner du chocolat. Voilà, mais ça ne nourrira pas la radio. Donc, chers auditeurs, on a vraiment besoin de vous pour pouvoir continuer cette belle aventure de Radio Courtoisie qui dure depuis maintenant pas loin de 40 ans. Donc ouais,
ce sera
allez-y.
Le cas l'année, dans 2027. 40
c'est
ans,
ça. Ouais. Donc, s'il vous plaît, soyez généreux. Arnaud, comment les auditeurs peuvent-ils aider la radio ?
Alors, comme le soulignait Liselotte, nous devons faire face à des créances assez importantes. Mmh. Donc, on compte vraiment sur vous pour nous soutenir financièrement en vous rendant sur soutenir.rc.fr pour nous faire des dons en ligne. Et puis, adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, 200 000, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est moins que le nombre d'auditeurs qui écoutent seulement la matinale.
Ah oui,
je parle
moins,
même
ouais.
pas de toute Radio Courtoisie, donc... Si une bonne partie d'entre vous pouvait se mobiliser avec nous, ce serait vraiment merveilleux. Merci d'avance. Tout de suite, on parle de Raphaël Arnaud, on ne s'en lasse pas, le député fiché S, qui s'en prend maintenant au père d'une victime du Bataclan. C'est avec Patrick Jardin.
Ligne droite. Debout les Français.
Et on débute cette matinale avec Patrick Jardin. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, oui, très bien, je vous remercie.
Merveilleux. Alors, vous êtes membre de l'Ordre du Saint-Sépulcre et surtout père de Nathalie, tuée au Bataclan le 13 novembre 2015, ça fera bientôt 10 ans, auteur du livre « Pas devant les caméras », où vous revenez donc sur cette expérience de deuil qui est devenue particulièrement politique. Patrick Jardin, on vous a invité puisque donc, cela fait maintenant quasiment 10 ans que votre fille a été tuée au Bataclan et il y a quelques jours, sur X, vous avez publié ceci. Dans moins d'un mois, cela fera 10 ans que je suis séparée de ma fille Nathalie, assassinés par des islamistes qui sont soit morts, soit incarcérés. Par contre, aucun des politiques auxquels on doit ces attentats, Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian, n'ont été inquiétés alors qu'ils sont responsables. Vous trouvez cela normal ? Une chose est certaine, je ne me rendrai pas à l'hommage organisé par tous ces pourris de politiques qui, à peine s'être rendus devant le Bataclan, vont aller boire du champagne et se goinfrer de petits fours. J'irai au Bataclan comme chaque année, mais en privé. Alors bien évidemment, on vous comprend et on reviendra d'ailleurs sur la responsabilité des politiques puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais avant cela, évidemment, la réaction de Raphaël Arnaud. Chers auditeurs, vous le connaissez, Raphaël Arnaud, qui est donc député, qui est aussi fiché S, ancien leader du mouvement antifasciste La Jeune Garde, et qui donc a réagi en insultant Patrick Jardin et en expliquant que c'était un fasciste qui œuvrait à la montée du racisme islamophobe. Patrick Jardin, est-ce que vous pourriez donc nous expliquer comment est-ce que cette affaire est montée et partie donc de ce tweet il y a quelques jours maintenant ?
Ben, vous l'expliquez, ça va être compliqué parce que je ne le sais pas moi-même. En fait, moi j'ai reçu un mail d'Éric Zemmour qui m'a indiqué que sur mon compte Twitter, ça défilait parce que ce fameux luberlu de Raphaël Arnaud m'avait insulté. Je ne le connais pas, je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à moi. Je sais que c'est un député LFI, mais on a des opinions politiques différentes et ça c'est normal. Je trouve ça tout à fait sain et normal qu'on ait chacun ses opinions, mais je ne me permettrai pas moi de l'insulter, je ne sais pas pourquoi il a éprouvé ce besoin. Maintenant, me dire que je suis fasciste, j'ai l'habitude. Puisque à partir du moment où on est de droite, on est facho. Pour le reste, j'ai confié ça à mon avocat qui jugera utile de donner une suite judiciaire à cette affaire.
Alors, vous avez quand même estimé que ça méritait d'être attaqué en justice. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de donner suite ? Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de personnes à votre place qui se seraient dit « C'est le jeu des réseaux sociaux, c'est comme ça, tout le monde s'insulte. » Là, il y a quand même une importance à faire ça, Patrick Jardin.
Oui, si vous voulez, moi, à partir du moment où on m'insulte, j'ai décidé déjà depuis un moment de ne plus jamais rien laisser passer. Donc, a fortiori, par un type aussi nauséabond que ce Raphaël Arnaud, j'ai décidé de ne pas laisser passer. Donc, je ne sais pas si mon avocat jugera utile de donner une suite judiciaire. D'après ce qu'il m'a dit, il va rédiger une assignation. Donc, c'est la justice qui tranchera.
Mmh. Vous avez reçu le soutien d'Éric Zemmour, mais aussi de députés du Rassemblement national. Preuve que votre figure, encore une fois, au-delà d'être celle d'un père endeuillé, est devenue politique. Est-ce que là encore, vous pourriez rappeler aux auditeurs pourquoi ? Puisque en fait, vous êtes surtout le symbole d'une parole qui s'est libérée après ces attentats du Bataclan.
Oui, ben, si vous voulez, Éric a l'avantage de dire la vérité, et il s'en tient, si vous voulez. Il joue pas sur les mots. Donc, il n'est pas des idées politiques qui sont proches des miennes. Ça a été un des rares à me soutenir après ce qui m'est arrivé, encore que je me souviens que à l'époque, Marine Le Pen m'avait reçu lors d'un meeting qu'elle avait fait à Lille, et elle était en pleurs suite à ce qui m'était arrivé. Mais alors, vous soulignez que Éric Zemmour m'a soutenu, oui, mais si vous saviez le nombre de milliers de tweets de soutien que j'ai reçus sur X, par rapport à ces quelques fachos de gauche, je dirais, qui eux m'insultent, ça prouve que je suis quand même dans la vérité, quoi.
Il y a Raphaël Arnaud qui s'est enfoncé dans son vocabulaire sous ses tweets, puisque après les réactions, donc notamment d'Éric Zemmour, il a expliqué que il est donc suprémaciste religieux ou nationaliste, on va tous vous dézinguer. Alors là encore, on s'enfonce toujours plus dans l'ignoble avec Raphaël Arnaud. Il ne s'arrête jamais.
Non, ben c'est peut-être pour ça qu'il est trois fois fiché S. Hein. Donc, c'est un a priori, moi je ne le connaissais pas, mais j'ai été sur Wikipédia, j'ai regardé sa fiche. C'est pas très reluisant, c'est un triste personnage. Donc, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a encore des électeurs en France qui votent pour des gens comme ça, qui prêchent en fait la haine. Je comprends pas, franchement, ce type mérite pas d'être à l'Assemblée nationale, et je sais pas si la présidente de l'Assemblée nationale prendra des mesures contre lui, mais j'estime que ça ferait partie de ses devoirs.
Ce que vous reproche Raphaël Arnaud, quand on creuse un peu, c'est d'avoir de la haine pour les responsables de la mort de votre fille, et donc plus largement toutes les victimes de l'islamisme en France. Et vous défendez justement, vous défendez le droit d'avoir cette haine envers ceux qui ont tué d'une certaine façon, en tout cas qui sont responsables de la mort de votre fille. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Vous savez, ne pas avoir de haine lorsqu'on a tué votre enfant, c'est un peu de l'inconscience, quoi. Alors, Raphaël Arnaud, d'après ce que j'ai vu, n'a pas d'enfant. Peut-être que le jour où il en aura, si jamais il lui arrive la même chose, il changera d'avis. Moi, j'ai la haine, effectivement, des islamistes qui ont fait ces attentats, et pas seulement pour ma fille, hein, mais pour toutes les autres personnes qui ont été tuées, et les 485 blessés que je n'oublie pas, parce qu'il y en a qui seront marqués à vie et qui resteront infirmes à vie. Donc ça, je n'oublie pas. Et j'ai la haine également, donc comme je vous le disais tout à l'heure dans mon tweet, pour tous ces politiques qui n'ont rien fait. Et j'ai encore en souvenir, lorsque je suis allé au procès, dit le procès du siècle, qui pour moi a été plutôt une mascarade du siècle, le souvenir du président Hollande et de M. Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui, lui, nous ont dit carrément on savait qu'il allait y avoir des attentats, mais on n'a rien fait. Alors qu'il suffisait de fermer les frontières, et puis les attentats n'auraient pas eu... Quand vous avez perdu votre fille, et puis que vous entendez ça, c'est dur à avaler. Après, il y a eu un film qui est passé sur la 5, qu'on a beaucoup de mal à retrouver, parce que je pense que maintenant, il a été plus ou moins censuré. Où, à la suite de ce film, il y a eu un débat. Ils ont interviewé M. Cazeneuve, qui, lui, a répondu simplement « Oh, vous savez, moi, 6 ans après, je ne me souviens plus. Excusez-moi, mais suite à un attentat, quand on est ministre de l'Intérieur, un attentat qui est le plus gros attentat depuis la guerre 40, ils ne se souviennent plus, ça paraît un peu léger. Et quant à M. Valls, il a dit « Oui, effectivement, il y a dû avoir des dysfonctionnements. » Je suis désolé, mais ces gens-là, ils sont élus, Ils nous dirigent. Et de par la Constitution, ils nous doivent la sécurité. Pour moi, ils ont failli. Et à partir du moment où ils ont failli, ils devraient être punis.
Mmh. C'est quelque chose qu'ont réclamé également une centaine de jeunes qui sont assemblés devant le tribunal au moment du procès de Lola qui avait lieu la semaine dernière. Donc, justice soit faite, mais donc étendue effectivement aux responsables politiques, aux médias aussi, qui ont tendance à modifier les informations, en tout cas à les présenter sous des angles complaisants ou à encourager tout ce qui participe à cette société chaotique dans laquelle les petites Lola sont torturées et dans laquelle votre fille Nathalie se retrouve assassinée au Bataclan. Quand on a des responsables politiques qui, suite à ce genre de moment, expliquent aux Français qu'il ne faut pas céder à la haine, justement, c'est parce qu'ils ont probablement bien conscience que si jamais on se laisser aller à des sentiments qui pourtant sont tout à fait instinctifs, naturels et surtout très légitimes, eh bien, les Français appelleraient à du changement et donc ils se retrouveraient en mauvaise posture politique. Patrick Jardin, vous êtes justement engagé en politique, c'est que vous avez quand même conscience qu'il y a une alternative possible. Donc, non seulement on a un personnel politique qui est responsable, mais vous pensez qu'on peut changer les choses et qu'on pourrait encore faire en sorte que ça aille mieux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre combat aujourd'hui ?
Je l'espère de tout cœur, parce que la France est dans un marasme épouvantable, que ce soit économique, au niveau de la sécurité, à tous les niveaux. La France dégringole. Et je pense qu'il est grand temps de mettre un coup de balai à tous ces gens qui nous dirigent depuis 45 ou 50 ans et qui ont montré et ont prouvé leur incompétence. Il est temps de les remplacer par des gens qui auront le courage de prendre les décisions, les bonnes décisions, pour qu'on n'en soit plus là, quoi.
Oui, par un personnel politique aussi qui serait peut-être plus décent, parce que quand vous nous parlez de ces gens qui nous expliquent qu'ils ne se souviennent plus de l'attentat, dont encore une fois ils sont en partie responsables, voilà, que c'était il y a longtemps, quand ils expliquent ça à la télévision, sachant très bien qu'il y aura probablement des victimes ou des familles de victimes qui verront ces mots... encore une fois, c'est d'une indécence crasse. Quand Raphaël Arnaud explique qu'il va dézinguer de toute façon tous les fascistes en s'adressant à un père qui a perdu sa fille au Bataclan, c'est d'une indécence crasse. Aujourd'hui, on aimerait retrouver donc un peu de dignité au sein de ce personnel politique. Et puis voilà, encore une fois, il y a une responsabilité médiatique dans les mots qu'on emploie.
Oui, non, mais vous savez, des gens inconscients, il y en aura toujours. Le malheur, c'est qu'il ne faut pas, dans ces cas-là, leur donner un mandat politique, parce que ça devient dangereux. Mmh. Et Raphaël Arnaud, pour moi, ne mérite jamais d'être député à l'Assemblée nationale, jamais.
Son argument, à lui, souvent, comme beaucoup de personnalités de gauche, c'est l'humanisme. On va vous dire, Monsieur Jardin, il faut faire preuve d'humanisme, donc il ne faut pas céder à la haine. En réalité, j'imagine que vous vous interrogez, où est-ce qu'il est cet humanisme, justement, quand Raphaël Arnaud s'adresse à vous de la sorte sur X, où est-ce qu'il est cet humanisme quand on a des représentants politiques qui expliquent que de toute façon, le Bataclan, eux, ils s'en rappellent plus.
D'une part, et où est l'humanisme quand vous avez des types qui rentrent dans une salle de spectacle et qui tirent sur tout ce qui bouge? Alors, c'est facile de dire aux autres, il faut faire preuve d'humanisme, mais vous savez, s'il n'y avait pas eu de victimes au Bataclan, j'en serais pas là, moi.
Mmh, oui, évidemment. Patrick Jardin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouvera dans quelques jours, puisqu'on va consacrer une émission, évidemment, à ces 10 ans des attentats du Bataclan, une émission d'hommage. Vous vous invitez à témoigner aussi. Je rappelle que vous êtes le papa de Nathalie, qui a été tuée donc, le 13 novembre 2015 au Bataclan. On vous retrouvera donc dans quelques jours. Merci beaucoup d'accepter de prendre la parole, puisqu'on imagine que ça demande aussi beaucoup de courage. Je rappelle que vous êtes aussi auteur d'un livre, Pas devant les caméras. Donc, chers auditeurs, si vous ne l'aviez pas encore lu, eh bien, il est toujours temps de le faire. Patrick Jardin, merci beaucoup donc, pour tout ça, et je vous dis à très vite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette matinale avec nous. On vous le disait il y a quelques minutes, il manque 200 000 euros à la radio pour clôturer l'année. Arnaud, comment les auditeurs peuvent-ils nous aider à faire face à ce problème ?
Je vous invite massivement à vous rendre sur soutenir.rc.fr et nous faire des dons en ligne. Et puis également à nous envoyer vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. C'est primordial en cette fin d'année.
Merci d'avance, chers auditeurs. Quel sera le programme du jour ?
Alors, tout à l'heure, à midi, en direct, le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin. Le traité de paix israélo-palestinien est-il un leurre et peut-on être juif et critiquer l'État d'Israël ? À 15h30, libre journal de l'Occident, Lola, victime de l'antiracisme. À 17h, Sursum Corda, dirigé par Mathieu Raffray, consacré au baptême. À 17h30, une nouvelle édition de Restons Courtois, dirigée ce soir par Marc Henault, en direct également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. 19h30, en direct, le bal des facétieux de Charles Rudelois, l'inspiration littéraire. Et puis à 21h30, en direct toujours, le libre journal des littératures, dirigé par Hector Burnouf.
Voilà, et nous, on se retrouve demain. C'est Richard de Cesse qui mène la matinale. Bonne journée, chers auditeurs, et à lundi.
Alors, et moi, je vous dis à demain.